Et comme il est 7h sur Europe 1, c'est l'heure d'accueillir Simon Rubin pour le premier journal de cette matinale. Bonjour Simon.
Bonjour Eve, bonjour à tous.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes le samedi 8 août. Bon réveil, il est 7h.
Il n'y a que des jeunes, il n'y a que des volontaires, il n'y a pas, le gouvernement là n'existe pas. Il n'y a personne, vous voyez, il n'y a même pas l'armée qui est là.
À Beyrouth, la solidarité au milieu des décombres. La jeunesse libanaise se mobilise, des jeunes qui dénoncent l'inaction des pouvoirs publics et qui tentent de venir en aide aux sinistrés après la gigantesque explosion.
Durant toute cette matinale, Europe 1 vous accompagne sur les routes. Nouveau week-end chargé un peu partout avec la prime en canicule. Avec en prime la canicule, c'est l'inverse, on va vous aider à prendre la voiture plus sereinement.
Et puis le foot, l'Olympique Lyonnais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dix ans que l'OL attendait un retour à ce niveau de la compétition. Hier soir, Lyon a fait tomber la Juventus de Cristiano Ronaldo. Reportage à Turin.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À la stupéfaction succède désormais la colère et l'indignation. À Beyrouth, aujourd'hui, une manifestation monumentale est attendue dans l'après-midi. Après l'explosion qui a causé la mort de plus de 150 personnes et fait plus de 5000 blessés, les Libanais demandent justice et veulent que les responsables politiques assument et s'expliquent. Colère, indignation donc, mais aussi parallèlement, la solidarité. La jeunesse libanaise s'organise pour venir en aide aux sinistrés. Le reportage de notre envoyé spécial, Johanna Chabas.
On ne peut pas ne pas se sentir concerné. Je suis désolée, j'ai les larmes aux yeux, mais parce que ça, c'est notre vie, quoi.
Dans cette rue, une cinquantaine de stands de nourriture sont installés. Zena distribue des sandwichs aux sinistrés, plus de 300 par jour. Et si elle est là, c'est parce que rien n'est organisé par le gouvernement.
Il n'y a que des jeunes, il n'y a que des volontaires, il n'y a pas. Le gouvernement, là, n'existe pas. Il n'y a personne, vous voyez, il n'y a même pas l'armée qui est là. On n'arrête pas d'envoyer des messages pour recevoir de l'aide. Si on a la possibilité de faire plus, on le ferait.
Au pied des immeubles effondrés, des centaines de Libanais déblaient le terrain avec des et des balais, toutes religions confondues. Dans ce quartier chrétien, des musulmans viennent aider et prier pour les sinistrés. Les volontaires ont en moyenne 25 ans, une génération prête à se battre, expliquent Johanna et Sonia.
Je pense que le balai aujourd'hui, c'est notre arme. Mes âgés sont juste fatigués entre les guerres, la révolte et maintenant. Donc c'est les jeunes qui ont encore l'énergie de travailler.
Tous les jeunes, que ce soit leur religion, ont vécu là. Les gens du nord, les gens du sud, les gens de la montagne, tout le monde a passé par ici. Donc ça n'a rien à voir avec la religion.
Sonia, sans emploi, affirme même qu'elle continuera à aider les autres aussi longtemps que les sinistrés auront besoin d'elle. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1. Et quatre jours après le drame, l'enquête est bien évidemment en cours. Jiyan Berghaoui, le président libanais Michel Aoun, lui, ne semble pas vouloir exclure l'hypothèse d'une bombe ou d'un missile à l'origine de l'explosion.
Absolument, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un responsable libanais évoque une piste extérieure pour cette explosion. Alors Michel Aoun ne nomme personne, il ne cible aucun responsable, aucun État, mais il ne veut pas écarter ce scénario. Et pour cela, le chef de l'État compte s'appuyer sur des images satellites pour vérifier la présence ou non d'avions ou de missiles dans l'espace aérien mardi au moment de l'explosion. Et c'est ce qui permettra selon lui de déterminer s'il s'agit d'une agression extérieure ou des conséquences d'une négligence. Le président libanais assure avoir personnellement demandé ces images à Emmanuel Macron. Jeudi à Beyrouth, le président français avait lui réclamé une enquête internationale sur les circonstances du drame. Et Michel Aoun rejette cette demande parce qu'il juge que cela diluerait la vérité. Et des déclarations qui pourraient attiser la colère des Libanais déjà très critiques envers Michel Aoun et toute la classe politique qu'ils accusent d'incompétence et de corruption.
Jiyan Berghaoui.
Europe 1, 7h04, Eve Roger, Simon Rubin.
Nouveau week-end chargé sur les routes. Il est même classé noir dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. À cela, vous ajoutez la canicule et vous obtenez le parfait cocktail pour tomber en panne.
Alors avant même de parler de vigilance sur la route, soyez attentifs à l'état de votre véhicule. Quelques astuces avec Yves Cara de l'Automobile Club.
La première chose à faire, mais c'est à faire toute l'année, mais encore plus quand on part pour un long voyage bien chargé, avec des bagages, avec des personnes et qu'il fait très chaud, c'est de vérifier la pression des pneus. Alors, on la vérifie à froid, hein, parce que si on la vérifie à chaud, ben, on va en mettre plus et à froid, elle va diminuer, voyez. Donc, on vérifie la pression des pneus à froid. Chose à faire, si on ne l'a pas encore fait, c'est peut-être pas trop tard, de vérifier que la climatisation a le bon liquide au bon niveau et si possible le faire changer ou en faire rajouter, ça c'est important. Nettoyer les filtres aussi de la climatisation, alors ça c'est un nid à microbes et un nid à acariens, donc voilà, pour éternuer tout le voyage et pour être un petit peu malade à l'arrivée, il n'y a pas mieux. 2. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà pas mal. Et puis, bien sûr, on vérifie les niveaux d'huile et puis surtout de liquide de refroidissement. Ça, c'est le minimum.
Yves Carra de l'Automobile Club de France, interrogé par Damien Mestre. Au Pays Basque, un jeune garçon de 16 ans a été mis en examen et incarcéré. Il est soupçonné d'être à l'origine de l'incendie volontaire qui a ravagé la forêt de Chiberta il y a une semaine à Anglette. L'adolescent assure qu'il est innocent, mais les enquêteurs et la justice s'appuient sur plusieurs éléments troublants. Guillaume Bier.
C'est un adolescent de 16 ans, hébergé dans un foyer d'aide sociale à l'enfance à Anglette. En garde à vue, il a soutenu qu'il n'était pas à l'origine du sinistre. Mais les enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne, qui ont travaillé non-stop depuis une semaine, sont convaincus de son implication. D'abord, ce jeune garçon s'est targué d'être l'incendiaire auprès d'autres pensionnaires du foyer, le jour même des faits. Face aux policiers, il a prétendu que c'était juste par vantardise et qu'il n'était pas coupable. Pourtant, il était bien à proximité des flammes ce jour-là. Et d'après le procureur, il a une tendance à la pyromanie. Briquet, allumette, il joue souvent avec le feu, souffle un enquêteur. D'ailleurs, il a déjà provoqué un départ de feu dans sa chambre en juin dernier. Il doit bientôt s'en expliquer devant la justice. En raison de ce faisceau d'indices graves et concordants, l'adolescent a été mis en examen pour destruction volontaire par incendie. Et comme l'avait requis le parquet, il a été placé en détention provisoire. Une semaine après cet incendie spectaculaire en plein cœur d'Anglette qui avait détruit plus de 160 hectares et 5 maisons.
Guillaume Bier.
Europe 1, 7h06, Sèvres Rogier.
Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 7h07, la suite du journal.
À Marseille, pour endiguer une reprise potentielle de l'épidémie de Covid-19, les autorités prennent les devants et depuis ce matin, le port du masque est désormais obligatoire en extérieur.
Dans certains secteurs de la ville, c'est le cas du Vieux-Port, du Cours Julien, de l'escale Borély, trois zones très fréquentées. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le port du masque dehors, c'est loin d'être gagné. Stéphane Frangy.
Bon courage pour faire respecter cette décision, car chacun a au moins un petit argument contre.
Bah non, je fais du sport. Ouais, non, si, c'est possible, mais j'ai pas envie de m'emmerder, quoi.
Avec l'été, tout ça, je pense que ça va être compliqué sur la durée, quoi. C'est contraignant, t'as chaud.
C'est vrai qu'on va possiblement avoir une marque de masque.
Certains ne croient pas du tout au bienfait que cela pourrait avoir.
Je pense pas que c'est efficace de le mettre en extérieur. J'y crois beaucoup, on est en lieu clos, moi. Mais en extérieur, on va mourir avec le masque, on va s'étouffer parce qu'on perd 30% de notre oxygène.
Et puis, il y a un facteur de relâchement estival que confesse par exemple ce touriste parisien.
Ouais, je suis né à Marseille, je suis un peu plus laxiste dessus. Et c'est l'effet de groupe aussi. Quand on marche dans la rue et qu'on voit que les gens ne l'ont pas, on ne le met pas systématiquement.
Mais cette mesure est tout de même applaudie par du monde, notamment par les restaurateurs du centre-ville comme Frédéric Jean-Jean.
C'est une nécessité, d'autant quand on voit comment les gens ne respectent pas les gestes barrières, que ce soit sur les plages, dans les rues, dans les soirées. À un moment, il faut faire un rappel à l'ordre si on ne veut pas que la rentrée soit un fiasco.
Et malgré les désagréments, beaucoup promettent de se plier au port du masque en extérieur et pour s'en assurer, eh bien, la mairie déploie des médiateurs dans les périmètres concernés. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et on en reparle à 8h moins le quart avec mon invité Emmanuel Barbe, le préfet des Bouches-du-Rhône.
Et les indicateurs continuent de se dégrader en France, où près de 2300 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus en 24 heures. C'est une progression inédite depuis le mois de mai.
On va parler foot maintenant avec l'exploit de Lyon qui s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe.
10 ans qu'ils attendaient ça, les Lyonnais. Ils avaient battu au match aller la Juventus de Turin, mais ça c'était avant le confinement. Et il aura donc fallu une sacrée dose de patience pour ce match retour, l'attendre. Et une défaite 2-1 à Turin, mais qui suffit à qualifier le club français, au grand bonheur de ses supporters qui avaient même fait le déplacement malgré le match à huis clos. Cyril de la Morinerie était avec eux.
Qui ne saute pas n'est pas lyonnais.
C'était top, c'était intense, le match était serré jusqu'au bout. On a tremblé, mais on a tenu et on a passé une belle soirée et on a pu voir quelques joueurs à la sortie, donc c'était top. Enfin, bravo pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est un exploit pour un club comme l'OL de tomber la Juve. Qui l'eût cru, mais on est fiers. Et puis ils ont bataillé, ils l'ont mérité, parce qu'ils ont fait un match solide, ils ont puisé dans leurs ressources. C'était pas évident. Et ils ont gagné leur place pour les quarts de finale.
Ils sont qualifiés. Maintenant, c'est vrai que c'était des circonstances assez compliquées. C'est pas le foot qu'on aime. Ça manque d'ambiance. Ça manque. Voilà, il y a plus d'âme. Donc, on est un peu perturbé par tout ça. Donc, c'est un peu triste. Ça gâche un petit peu la fête. Bon, on espère que la suite sera plus belle pour les Lyonnais et que et ben que ces moments-là restent quand même malgré tout dans un petit coin de nos têtes.
On va à Lisbonne du coup, non je rigole, une petite blague. Bien sûr qu'on y croit jusqu'au bout, hein. De toute façon on est bien arrivé contre la Juve, pourquoi pas contre City.
L'OL qui se qualifie donc et qui retrouvera un Manchester City en quart de finale. Manchester qui a battu le Real de Zidane et Benzema hier 2-1, et les matchs seront à suivre sur Europe 1. Les prochains à Lisbonne, c'est la semaine prochaine. Il y aura notamment le PSG qui jouera Bergame mercredi. Des étoiles du foot, on va enchaîner aux étoiles tout court. Bravo. 30e édition, merci, ce week-end des nuits des étoiles. Alors il y a des sites partout en France, vous pouvez évidemment observer le ciel, les étoiles et les planètes.
Et notamment la planète Mars qui est en ce moment assez proche de la Terre. Caroline Fraissinet est exobiologiste au laboratoire Latmos, elle étudie les formes de vie dans l'univers.
Mars, on va l'observer. Déjà, on l'observe à l'œil nu. C'est un petit point rouge qu'on arrive à distinguer parmi les étoiles. Et donc, sur les différentes animations de la nuit des étoiles, on va déployer des télescopes pour observer plus en détail la planète et également les autres planètes du système solaire qui sont bien observables. Saturne avec ses satellites, notamment Titan, son plus gros satellite, qui est également très, très intéressante pour la recherche de traces de vie. Et Jupiter avec ses différents satellites qu'on arrive à observer avec les différents instruments qui sont déployés dans toute la France par des bénévoles pour pouvoir observer ces différentes planètes.
Propos recueillis par Capucine Rouault.
Merci beaucoup Simon Rubin. Vous nous présentiez ce tout premier journal de la matinée. Retour de l'info à 7h30.